Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 17 octobre 2023. Le Congrès américain est toujours paralysé. Jim Jordan, un allié de Donald Trump, échoue à être élu speaker au premier tour de vote. Joe Biden est attendu demain en Israël par solidarité pour débloquer l'aide vers Gaza.
La seule solution réellement doit être politique, elle ne peut pas être militaire.
Réaction à suivre de Leila Shahid, l'ancienne déléguée de l'OLP en France et dans l'Union européenne dans la partie magazine. Au Libéria, un second tour se profile à l'horizon entre George Weah et Joseph Boakai. Au Niger, 6 soldats ont été tués dans des combats avec des terroristes près du Burkina Faso. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Eco pour l'instant, le journal. On commence par les États-Unis. Les élus de la Chambre des représentants ont échoué à faire élire un nouveau speaker après un premier tour de vote. L'élu de l'Ohio et lieutenant de Donald Trump, Jim Jordan, n'a pas obtenu le nombre de votes requis pour être un élu. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
Jim Jordan a obtenu 200 voix, moins que les 217 nécessaires pour être élu speaker, ce qui signifie que malgré leur majorité à la Chambre des représentants, 20 républicains n'ont pas voté pour lui. M. Jordan peut toutefois maintenir sa candidature durant plusieurs tours, ce qui signifie qu'il est encore possible qu'il accède au perchoir. Cette élection peut prendre plusieurs jours. Le speaker destitué, Kevin McCarthy, avait dû batailler durant 15 tours pour accéder au perchoir en janvier. Le Congrès américain n'a plus de speaker depuis la destitution historique de Kevin McCarthy le 3 octobre, la privant de nombre de ses pouvoirs, y compris l'adoption de mesures de soutien à Israël ou à l'Ukraine.
Le président américain Joe Biden est attendu demain en Israël pour une visite de solidarité après l'attaque sanglante du Hamas. Son voyage vise aussi à débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza en état de siège et menacée d'une catastrophe humanitaire. Jacques Aristide.
À l'issue d'une nuit d'entretien à Tel Aviv avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a fait part de la venue du président Joe Biden pour réaffirmer la solidarité des États-Unis avec Israël. Et ce alors que l'Iran a menacé d'une possible action préventive contre Israël si le pays maintient son projet d'offensive terrestre contre la bande de Gaza. Le président Biden espère entendre de la part d'Israël comment il mènera ses opérations de manière à minimiser les pertes civiles et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza d'une manière qui ne profite pas au Hamas, a ajouté Anthony Blinken. Le chef de l'exécutif américain doit également rencontrer à Amman le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président palestinien Mahmoud Abbas, un rival du Hamas basé en Cisjordanie occupée au moment où le risque d'un débordement du conflit inquiète à travers le monde.
Et le Hamas a annoncé aujourd'hui la mort d'un de ses commandants militaires dans une frappe israélienne sur le centre de la bande de Gaza. Ayman Nofal, un commandant des brigades Al-Aqsam, la branche armée du Hamas, a été tué sur le camp de Bourej, indique un court communiqué. Le président russe Vladimir Poutine a été accueilli aujourd'hui par son homologue et allié chinois Xi Jinping à l'occasion du sommet des nouvelles routes de la soie à Pékin. Un entretien entre les deux chefs d'État est programmé mercredi. La Chine accueille jusqu'à demain les représentants de 130 pays pour le forum des nouvelles routes de la soie, un événement diplomatique majeur qui doit contribuer à renforcer sa stature internationale. Le gouvernement vénézuélien et l'opposition vont reprendre aujourd'hui les pourparlers suspendus depuis longtemps, ce qui serait positif pour les prochaines élections de 2024, estime le président Nicolas Maduro. Le département d'État américain a salué l'annonce de la reprise des pourparlers plus tôt dans la journée de lundi, mais n'a pas mentionné d'allègement des sanctions.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, la plupart des ministres ont été reconduits en Côte d'Ivoire lors de la nomination d'un gouvernement de 32 membres ce mardi, dirigé par le nouveau Premier ministre Robert Beugré-Mambé, qui hérite également du portefeuille des sports à 3 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Tene Biraïma Ouattara, frère du président Alassane Ouattara, conserve le portefeuille de la défense, tout comme Kobenan Kwasi Adjoumani, celui de l'agriculture, tous deux gardant leur rang de ministre d'État. Le Libéria se dirige vers un second tour de la présidentielle entre George Weah et Joseph Boakai au coude à coude et largement en tête du premier tour, selon des résultats provisoires publiés par la commission électorale. Les précisions de John Lindon.
Joseph Boakai a obtenu 43,70% des voix et George Weah 43,65% selon les résultats provisoires publiés mardi sur le site de la Commission nationale des élections. Aucun des 18 autres candidats n'a obtenu 3% des voix. Le total des voix dépouillées s'élève à 1,712 millions, soit plus de 94% selon des chiffres de la Commission. À ce stade, ni Weah ni Boakai ne peuvent réunir les voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue et être élus dès le premier tour. Un second tour est prévu 2 semaines après l'annonce des résultats officiels. Il pourrait avoir lieu début novembre, mais risque de s'éteindre plus tard en raison d'éventuels recours. Lors de la présidentielle de 2017, George Weah l'avait emporté au second tour face à Joseph Boakai.
Madagascar, la présidentielle est dans l'impasse, a reconnu aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Proche du pouvoir, notre pays va mal, notre peuple est en souffrance et nous sommes la cause de cette défaillance. On est dans l'impasse, a déclaré Christine Razana Maposoa devant des députés de l'opposition qui ont réclamé la démission du premier ministre propulsé à la tête d'un gouvernement d'intérim contesté pour la période électorale. Rassemblés dans une alliance baptisée le collectif des 11, ses opposants appellent depuis plus de 2 semaines à manifester pour réclamer un scrutin transparent et équitable et dénonce un coup d'État institutionnel. Des manifestations à l'appel de l'opposition se sont poursuivies aujourd'hui au Mozambique pour dénoncer des fraudes lors du scrutin municipal, la police ayant fait usage de gaz lacrymogène dans la capitale Maputo. Les Mozambicains se sont rendus aux urnes mercredi pour choisir leurs représentants dans 65 municipalités. Les résultats complets sont toujours attendus, mais le parti au pouvoir a été déclaré vainqueur dans la plupart des villes où le dépouillement est achevé, des résultats contestés par la RENAMO. 6 soldats nigériens tués dans une opération de ratissage dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, 31 terroristes ont été tués lors des combats, selon le ministère nigérien de la Défense. Alexandrine Ologon.
6 soldats sont morts et 18 autres blessés dans une série d'accrochages avec des éléments terroristes dans la zone de Lemdou, selon le communiqué du ministère de la Défense. Les forces de défense et de sécurité menaient une mission de ratissage dénommée Opération Nia dans la région de Tillaberi, en pleine zone dite des 3 frontières. Ces dernières semaines, plusieurs attaques ont endeuillé le Niger dans cette zone où les djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahara sont très actifs. Fin septembre, 16 soldats ont été tués dans une autre attaque à Kandaji. À la mi-août, au moins 17 militaires sont morts près de la frontière avec le Burkina. Le bilan le plus lourd a été en début octobre avec 29 soldats tués dans une attaque complexe au nord-ouest de Tabatol, proche du Mali. Le Niger est gouverné depuis le 26 juillet par un régime militaire après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum.
Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui une récompense de jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information permettant d'identifier ou de localiser le numéro 2 des islamistes somaliens Shebab, Aboubakar Ali Adan, qui a été placé sur la liste noire des États-Unis en 2018, est le chef adjoint des Shebab. Il a aussi été leur chef militaire et a dirigé la branche armée du groupe djihadiste, selon un communiqué du département d'État américain. Les Shebab mènent une insurrection sanglante depuis plus de 15 ans en Somalie, pays de la Corne de l'Afrique. Le président d'un petit parti d'opposition au Burundi, le Kodebou, a été écroué à la prison centrale de Bujumbura ce mardi pour avoir critiqué le pouvoir burundais. Kefa Nibizi a été écroué pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État après avoir été entendu par le procureur général de la République, Léonard Manirakiza, pendant 15 minutes au palais de justice de Bujumbura. Il est poursuivi pour un message très critique envers le pouvoir burundais publié sur Twitter vendredi dernier à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Rwagasore. Et puis, en République démocratique du Congo, la justice a refusé une nouvelle fois de libérer le journaliste Stanis Bujakera, jugé pour un article mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre d'un opposant. Le tribunal a rejeté lundi soir la demande de main levée de détention et de liberté provisoire du journaliste, estimant que sa fuite est à craindre, a indiqué Maître Charles Mushizi, son avocat. Le procès du journaliste devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison de Makala, s'est brièvement ouvert le 13 octobre et doit reprendre vendredi. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Le ministère camerounais des Finances a annoncé avoir signé à Beijing, en Chine, une convention fiscale avec l'Empire du Milieu. Selon l'agence Investir au Cameroun, cette convention vise l'élimination de la double imposition en matière d'impôts et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. La Chine est l'un des premiers partenaires économiques du Cameroun. Il était donc nécessaire de négocier une telle convention, a indiqué le ministère des Finances. Au Togo, la direction des transports routiers et ferroviaires se prépare à lancer une opération d'immatriculation nationale pour les engins à 2 et 3 roues. Cette initiative, prévue du 5 novembre au 17 décembre, vise à identifier et à enregistrer les engins non immatriculés tout en rapprochant les services publics des usagers. L'opération couvrira les principales villes du pays, souligne l'agence Togo First. Le géant américain d'Internet Google a signé un accord avec l'organisme de gestion collective DVP qui porte à 350 le nombre de publications françaises avec lesquelles il s'est entendu à ce stade pour la rémunération de leurs droits voisins du droit d'auteur, a-t-il annoncé mardi. À ce jour, les accords en France couvrent plus de 350 sites d'éditeurs de presse. D'autres sont susceptibles d'être signés à l'avenir. L'objectif affiché par Google étant de conclure des accords avec l'ensemble des éditeurs de presse concernés.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
En amical, le Sénégal bat le Cameroun 1-0.
Le Sénégal a signé une belle victoire sur le plus petit score 1-0 face au Cameroun, un match amical lundi à Lens, dans le nord de la France. Solide et appliqué, les Lions de la Teranga ont largement dominé des Camerounais inoffensifs et sans idée dans un stade Bollard de l'Hélice à moitié rempli. La star du club saoudien d'Al Nassr, Sadio Mané, a marqué l'unique but de la rencontre sur pénalty à la 35e minute. Avec ce but, Mané consolide sa place de meilleur buteur des Lions. Le Sénégal champion d'Afrique en titre et les Lions indomptables se retrouveront en compétition officielle le 19 janvier dans le groupe C de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, 13 janvier, 11 février.
Le foot français essuie un premier échec dans la vente des droits de diffusion TV 2024-2029 de la Ligue 1.
Tout à fait, Jean-Roger. Aucun des lots proposés par la Ligue de football professionnel LFP n'a trouvé preneur, ouvrant une période de négociation de gré à gré à haute incertitude. Le milliard d'euros tant convoité par le président de la LFP, Vincent Labrune, en comptant les droits vers l'étranger commercialisés en parallèle, pour l'heure, un mirage. Ni Amazon Prime Video, ni Bein Sport, ni la plateforme de streaming sportif d'Azen n'ont voulu s'aligner sur les 800 millions d'euros par saison demandés par la Ligue pour participer aux enchères de ce mardi concernant les droits domestiques. En revanche, cet échec permet potentiellement au groupe Canal+, qui avait refusé de participer aux enchères, de revenir autour de la table.
Moment de silence avant les matchs européens ce mardi.
Un moment de silence sera observé ce mardi avant tous les matchs qualificatifs pour l'Euro 2024 pour saluer la mémoire des victimes de l'attentat de Bruxelles qui a coûté la vie lundi à deux Suédois, a annoncé l'UEFA. Deux supporters suédois de football ont été tués lundi vers 19h dans la capitale belge et un troisième blessé alors qu'il venait assister au match éliminatoire pour le tournoi continental Belgique-Suède. L'auteur présumé de l'attaque, un Tunisien radicalisé de 45 ans, a été mortellement touché au cours d'une opération de la police belge ce mardi matin.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La guerre entre Israël et le Hamas sera au centre d'un sommet quadripartite demain mercredi à Amman, réunissant le président américain Joe Biden et les dirigeants de Jordanie, d'Égypte et de l'autorité palestinienne, un rival du Hamas basé en Cisjordanie occupée. Monsieur Biden est attendu demain en Israël pour réaffirmer la solidarité des États-Unis avec leurs proches alliés et a soutenu les appels en faveur d'une solution à deux États. Eric Manirakiza a joint en France Leïla Chahid, ancienne déléguée de l'OLP en France et dans l'Union européenne.
Écoutez, dans toute la Palestine, même si le lieu est la bande de Gaza, mais ce qui se passe est tellement représentatif du déni de l'existence d'un peuple palestinien, de ses droits, de la justice. C'est une tragédie absolue. Je ne sous-estime pas la tragédie des familles israéliennes qui ont perdu des siens dans les kibboutzim autour de Gaza. Je ne sous-estime pas combien le traumatisme est grand pour les civils israéliens, parce que les militaires, eux, ils font partie de l'armée occupante depuis 56 ans. Mais ce qu'ils appellent l'éradication de la bande de Gaza est littéralement une folie. On ne peut pas éradiquer un mouvement de résistance militaire. On ne peut pas éradiquer le Hamas qui, même si ce n'est pas le parti politique pour lequel je vote, fait partie de la société palestinienne. Et je trouve que c'est une tragédie immense parce que le voyage de M. Biden, le président américain, en Israël, puis à Amman pour voir le président palestinien, le président égyptien et le roi de Jordanie, ne semble pas exactement équilibré.
Le déplacement du président Biden, c'est pour éviter l'escalade. Selon vous, quelle est la solution durable pour qu'il n'y ait plus de guerre dans cette région?
La seule solution réellement doit être politique, elle ne peut pas être militaire. Il est évident que Israël est une puissance nucléaire. Israël a 200 têtes nucléaires. Est-ce que ces 200 têtes nucléaires lui ont amené la paix? Est-ce qu'elle a vraiment pu faire la paix avec la Palestine, le Liban, la Syrie? Elle a fait la paix, mais disons très formelle, avec la Jordanie et l'Égypte. Elle a pensé que ce serait bien d'aller faire la paix avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc qui ne sont pas en guerre avec elle. L'élément principal pour amener la paix en Israël, c'est vraiment le peuple palestinien et les représentants palestiniens. Ça fait 30 ans que nous avons négocié les accords d'Oslo, où nous avons reconnu Israël. Nous avons demandé un État palestinien sur 23% de ce qu'était la Palestine mandataire et nous n'avons eu aucun soutien réel.
Leïla Chahid, l'ancienne déléguée de l'OLP en France et dans l'Union européenne.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan à nouveau sur la guerre entre Israël et le Hamas, avec notamment la visite de solidarité du président américain Joe Biden dans l'État hébreu. Autre objectif, tenter de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza au moment où la peur de l'embrasement gagne toute la planète. Le voyage du locataire de la Maison Blanche peut-il influencer le cours du conflit? Quelle est la position des puissances du Moyen-Orient? Quel rôle joue la communauté internationale dans la recherche d'une solution pacifique? Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Le président Joe Biden est donc attendu en Israël demain mercredi. Dans le même temps, la Chine envoie un émissaire spécial au Moyen-Orient pour tenter de faciliter un cessez-le-feu. Nai Ching, chef du bureau de la VOA au département d'État, fait le point. Le récit avec Rosine Monizero.
Israël a lancé de nouvelles frappes sur Gaza lundi, s'engageant à éliminer le contrôle du Hamas sur la bande de Gaza. Cette action se poursuit parallèlement à un effort diplomatique visant à apporter une aide humanitaire aux civils. Lundi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prolongé ses consultations avec des responsables israéliens après plusieurs jours de rencontres avec d'autres dirigeants du Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Les États-Unis et Israël ont convenu d'élaborer un plan qui permettra à l'aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d'atteindre les civils de Gaza et eux seuls, y compris la possibilité de créer des zones pour aider à garder les civils hors de danger. Il est essentiel que l'aide commence à affluer à Gaza dès que possible.
Pour sa part, la Chine envoie un émissaire spécial dans la région, ce qui marque sa volonté de s'impliquer davantage pour faciliter un éventuel cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Monsieur Blinken s'est entretenu samedi avec Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, avant la venue de Monsieur Wang à Washington à la fin du mois. Le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu aussi avec son homologue iranien dimanche. Les États-Unis ont mis en garde l'Iran et d'autres pays contre l'exploitation du conflit. Ils ont également exhorté la Chine à user de son influence au Moyen-Orient pour empêcher des acteurs étatiques ou non étatiques d'attaquer Israël et d'étendre sa guerre contre le Hamas. La Chine entretient des relations chaleureuses avec l'Iran. En mars, la Chine a facilité la conclusion d'un accord de normalisation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Daniel Couser a été ambassadeur des États-Unis en Israël de 2001 à 2005.
Les Chinois ont pu mener à bien ce projet en raison des relations qu'ils entretiennent avec les deux parties. La Chine a également des intérêts économiques et des ressources naturelles très importants. Le contrat pétrolier à long terme avec l'Iran, pour lequel elle a déployé des moyens navals afin d'assurer la sécurité des exportations de pétrole et de gaz. Ainsi, à la fois sur le plan diplomatique, économique et militaire, le rôle de la Chine s'accroît.
Certains responsables américains doutent que la Chine puisse négocier un règlement politique durable du conflit israélo-palestinien qui dure depuis plusieurs décennies, soulignant que l'Iran est en soutien historique du Hamas. La Chine a condamné les actions contre les civils, mais n'a pas condamné explicitement le Hamas. Nicholas Burns est l'ambassadeur des États-Unis en Chine.
Le Hamas n'accepte pas la solution à deux États. Le Hamas n'accepte pas l'État d'Israël. Le Hamas, par son credo même, veut détruire l'État d'Israël et tuer les Israéliens. Reste à savoir si la Chine a la capacité d'être un véritable médiateur.
Cette semaine, la Chine accueille des représentants de 130 pays pour son forum sur l'initiative, la ceinture et la route. Le président russe Vladimir Poutine doit être présent. Pékin a aussi proposé de jouer un rôle de pacificateur dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Au Togo, les exploitants de Wi-Fi Zone sont de mauvaise humeur. Ils protestent contre la décision de l'autorité de réglementation des communications électroniques d'encadrer leurs activités avec le paiement d'une déclaration. Les associations des consommateurs montent au créneau et demandent au gouvernement de sursoir momentanément à la décision. De Lomé, notre correspondant Kossé Wousou.
Accusés par les jeunes qui tiennent les points de vente de connexion Wi-Fi, appelés Wi-Fi Zone, de vouloir les priver de leur activité génératrice de revenus en exigeant désormais le paiement d'une déclaration de 100 000 francs CFA, l'autorité de réglementation des communications électroniques et des postes se défend. Kadiri Ourobangdin, le directeur des affaires juridiques et de la protection des consommateurs à l'ARCEP.
En réalité, ce n'est pas la décision qui fixe le montant de la déclaration. Le montant de la déclaration est fixé par un décret. Il est dit que quand on est fournisseur de services à valeur ajoutée, toutes les activités qu'on fait autour de l'activité de réseau, on doit se déclarer. Et vous devez faire cette déclaration qui coûte 100 000 francs.
Pour les exploitants de Wi-Fi Zone, la décision de l'ARCEP n'est pas la bienvenue. Michael Agbonigan, le président de l'Association nationale des opérateurs de Wi-Fi Zone, pense que cette situation va impacter la consommation d'Internet des populations, d'autant que les offres de souscription spéciale pour le profit fil des Wi-Fi Zones du principal fournisseur d'accès du pays ont subi une hausse considérable.
Les opérateurs de Wi-Fi Zones amènent l'accès à Internet pour un individu à 3 000 francs, 2 500 par mois, ce qui est à la portée de la grande majorité des Togolais. On a commencé cette activité avec une offre qui a une valeur de 30 000 francs CFA. Et aujourd'hui, on augmente l'offre à 75 000 francs. Mais ce n'est pas les opérateurs de Wi-Fi Zones qui en souffrent. C'est la population qui paiera les pots cassés parce que nous allons augmenter l'offre. Donc, on n'est pas en train d'aider les gens à avoir accès à Internet à moins de coûts.
Les associations des consommateurs haussent le ton, tout en exigeant une baisse conséquente du coût de la connexion Internet afin de permettre au plus grand nombre d'en disposer. Benetti Gagalo, vice-président de l'Association togolaise des consommateurs, interpelle le gouvernement.
Nous demandons au gouvernement la suspension temporaire de la décision de l'ARCEP, la mise en place d'un comité interministériel pour approfondir les réflexions portant encadrement de l'activité de Wi-Fi Zone au Togo. L'ATC demande aussi qu'un moratoire soit accordé aux acteurs de l'écosystème numérique togolais afin que ceux-ci mutualisent leurs efforts pour une baisse considérable du coût de l'Internet sur le territoire national.
L'Association nationale des opérateurs de Wi-Fi Zone, quant à elle, appelle tout simplement à la relecture des textes de loi relatifs au secteur.
Nous interpellons l'Assemblée nationale à revoir dans les brefs délais les textes de la loi sur la communication électronique. Aussi, nous souhaitons interpeller l'exécutif togolais à se pencher sur la question.
Pour le moment, l'autorité de réglementation leur donne 3 mois pour se conformer à la loi. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Tchad, l'OMS s'inquiète de la situation sanitaire des réfugiés soudanais et des Tchadiens rapatriés qui sont dispersés dans 4 provinces de l'est du pays. Sur de nombreux sites de transit, ces réfugiés rapatriés vivent dans des conditions de promiscuité propices à la propagation de maladies. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Ces réfugiés font une pression énorme sur le système de santé, lequel système de santé, comme dans beaucoup de pays africains, est déjà très faible.
Jean Bosco Ndioko Bayo, représentant de l'OMS au Tchad.
Il faut plus de personnel pour soigner tous ces réfugiés-là, il faut plus de médicaments, il faut plus d'infrastructures. Avec cette pression des réfugiés, mais aussi avec les populations autres qu'il ne faut jamais oublier, nous avons à peu près 2 millions de personnes qui sont dans le besoin de soins de santé de base. C'est énorme. Nous avons dans cette crise à peu près 3125 blessés de guerre au dernier chiffre. Et ces blessés de guerre sont soignés dans des cliniques mobiles à Adré. Et ce qu'on ne peut pas soigner à Adré, on envoie à Béché où nous avons une équipe de chirurgiens qui travaillent avec les chirurgiens nationaux pour opérer sur les cas qui sont référés à Adré où on ne peut pas, bien sûr, les soigner.
Pour les autorités sanitaires, cette situation inédite et inattendue, marquée par une déferlante humaine dans l'est du Tchad, a causé assez de difficultés au personnel soignant.
En réalité, l'hôpital de district était beaucoup plus préparé pour prendre en charge une population d'environ 100 à 150 000 habitants. La population a été multipliée pratiquement par 4.
Dabsou Guidaoussou, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Pour lui, le gouvernement tchadien a mis à la disposition des districts concernés des ressources humaines et des médicaments pour appuyer l'équipe afin de soulager les réfugiés et populations autochtones.
En tout, 1359 agents toutes catégories confondues sont en train d'être recrutés qu'on va déployer dans les jours à venir dans ces provinces-là pour pouvoir soulager un peu les souffrances du personnel qui est sur place.
Cette situation a occasionné plusieurs cas de malnutrition dans l'est du Tchad. Sur les 8 districts des 4 provinces touchées, plus de 68 000 cas de malnutrition aiguë modérée et plus de 36 000 cas de malnutrition aiguë sévère ont été recensés. Pour le représentant de l'OMS au Tchad, Jean Bosco Ndioko Bayo, un enfant atteint par la malnutrition est très vulnérable.
Un enfant qui ne mange pas bien est immunodéprimé systématiquement. Et quand on est immunodéprimé, évidemment, les autres maladies en profitent. Les maladies opportunistes, vous devenez beaucoup plus vulnérable au paludisme, aux diarrhées, aux infections respiratoires aiguës et vous devenez par-dessus tout très vulnérable à la rougeole.
Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou, donne la statistique des cas de décès liés à la malnutrition.
On déplore malheureusement 157 décès. Parmi ces décès, il y a 113 enfants qui sont décédés des suites de malnutrition qui devient la première cause de mortalité chez les enfants. On déplore également le décès de 27 femmes, soit liées à des complications de grossesse, ou pendant l'accouchement ou encore les complications liées aux suites d'accouchement.
Des séances de dépistage pour les enfants de moins de 5 ans ont été organisées pour identifier les enfants malnutris et des intrants ont été déjà prépositionnés dans les différents sites pour une prise en charge adéquate. André Kordouma Dingar, Njamenan, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Lionel Gaïba, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.